Bonjour, je suis Annie Jacob, historienne de l'art. Bienvenue dans Expod, le podcast des expositions, où je décortique pour vous une exposition en cours. Dans ce nouveau podcast, je vous emmène dans la forêt de Fontainebleau avec Théodore Rousseau, un peintre rebelle qui a fait de la nature le motif principal de son œuvre et dont les portraits d'arbres sont sa signature. Ce peintre, qui a révolutionné la peinture de paysages une génération avant les impressionnistes, est également un écologiste de la première heure en se faisant le porte-voix de la forêt auprès des politiques. Présenté depuis le 5 mars au Petit Palais, Théodore Rousseau, La Voix de la Forêt, est une exposition qui, à partir d'une centaine d'œuvres, retrace la carrière de cet artiste libre et indiscipliné, en osmose avec la nature, capable d'écouter les arbres et d'entendre leur voix. Théodore Rousseau, originaire de Paris, voit le jour en 1812. De santé fragile, ses parents l'envoient vers l'âge de 12-13 ans en Franche-Comté. Il y reste plusieurs mois et se trouve un travail dans une scierie. C'est là qu'il se découvre une passion pour le monde sylvestre. Il se met alors à dessiner sur de petits carnets des chênes, des hêtres, des sapins, des houx et d'autres essences encore. De retour à Paris, il convainc ses parents de devenir un artiste. En 1826, il s'inscrit à l'atelier du peintre paysagiste et académicien Jean-Charles Joseph Raymond, qui avait obtenu le Grand Prix de Rome en 1821 pour le paysage historique, et à celui de Guillaume Guyon-Lethière, professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris, pour y étudier la figure. En 1829, alors qu'il s'apprête à passer lui-même le concours du Prix de Rome, sur le sujet imposé, le cadavre de Zénobie retiré de l'Arax par les pêcheurs, Théodore Rousseau, âgé de 17 ans, s'insurge. Il refuse que la nature serve uniquement de décor aux actions humaines, mythologiques ou bibliques. Il veut la considérer pour elle-même. Dès lors, il renonce à suivre la voie académique. Il se trouve de nouveaux maîtres spirituels comme Claude Lorrain, qu'il copie au Louvre, les paysagistes hollandais du XVIIe siècle comme Karel Dujardin, ou encore les romantiques allemands et anglais comme Caspar David Friedrich, William Turner ou John Constable. Rousseau le rebelle rejette l'idée de faire le voyage en Italie, le fameux Grand Tour, qu'entreprennent la plupart des peintres comme par exemple Camille Corot. C'est le Tour de France que lui veut faire. En 1830, il part seul en Auvergne. Il reste 6 mois dans cette région vierge à la recherche de nouveaux motifs. Il se sent enfin libre au sein d'une nature antique et presque intacte. Il exécute de nombreuses études, dont Paysages d'Auvergne, un paysage de montagnes volcaniques presque surnaturelles, mixant diverses techniques, aquarelles, pastels et gouaches, qui soulignent déjà l'originalité de son œuvre très expérimentale, en quête d'une nouvelle forme de paysage. Quand Théodore Rousseau rentre à Paris, il présente ses tableaux à son maître Jean-Charles Joseph Raymond. Celui-ci qualifiant ses paysages comme l'œuvre du délire, il préfère rompre définitivement avec lui, car c'est précisément avec un paysage d'Auvergne que Théodore Rousseau est reçu pour la première fois au salon de 1831. Il n'a que 19 ans et ses débuts sont prometteurs. Après son voyage en Auvergne où il a découvert une nouvelle lumière, Théodore Rousseau ne cessera de parcourir la France. En 1834, il part dans le Jura avec un ami, Alcide Joseph Laurence. Les deux artistes s'installent au col de la Faucille dans une auberge avec une vue exceptionnelle sur le massif du Mont Blanc. C'est là qu'ils réalisent Mont Blanc vu du col de la Faucille et fait de tempête. Cette toile de grand format souligne le caractère extraordinaire du site et donne à ce paysage la force de la peinture d'histoire tout en rompant avec les principes académiques. En effet, il ne restitue ni la perspective traditionnelle, ni la topographie précise du lieu. Il s'attarde sur le sentiment vertigineux de l'homme face au spectacle de la nature. Il explique sa démarche à sa mère dans une lettre datée du 17 août 1834. « Je brûle de remplir la tâche difficile de donner sur une toile une idée de l'immensité qui m'environne pour en répandre les bienfaits sur de moins heureux que moi. » Théodore Rousseau continue d'exposer au salon de 1834 puis à celui de 1835. Toutefois, il ne laisse pas indifférent la critique qui se scinde rapidement en deux camps opposés. Il faut dire que la peinture de paysage, qui est en plein essor et en pleine révolution, bouleverse la hiérarchie du genre pictural. Depuis le XVIIe siècle, la peinture d'histoire prime sur la peinture de paysage et au sein même de la peinture de paysage, le paysage historique l'emporte sur les paysages sans trace humaine. Théodore Rousseau sème donc le trouble avec ses œuvres. On lui reproche également le choix de ses sujets. Là encore, ils ne respectent pas les règles académiques, comme celles rédigées par les peintres et théoriciens Jean-Baptiste de Perthes et Pierre-Henri de Valenciennes, qui, dans leur traité sur le paysage, encouragent les artistes à peindre sur le motif en leur conseillant, je cite, « de choisir le site dont l'image présentera l'aspect le plus pittoresque et d'étudier la nature pour l'embellir et la représenter sur la toile avec tout le charme et le sublime du beau idéal ». Théodore Rousseau, pour qui tout signe de vie est sujet d'observation, ne respecte pas les conseils de ses aînés. Il préfère peindre la nature telle qu'elle est, sans avoir à la sublimer. Un autre aspect de son travail dérange, c'est la question du fini, ou plutôt du non-fini dans ses œuvres. Cette question marque la limite entre les tenants de la tradition néoclassique et les novateurs dans la lignée du romantisme, en même temps qu'elle soulève une prise de position esthétique et politique. En effet, l'art inachevé implique l'idée d'une projection vers ce qui reste à accomplir. Il est donc porté vers le futur, alors que l'art fini renvoie au conservatisme, à ce qui est déjà accompli et donc révolu. Aussi, pour toutes ces raisons, les œuvres de Théodore Rousseau finissent-elles par être refusées par le jury réactionnaire appartenant à la monarchie de Juillet au salon de 1836, 1838, 1840 et 1841. Si au salon de 1836 descendent des vaches dans le Haut-Jura est recalée et affublée du surnom « la descente des vaches aux enfers », le rejet de l'allée des châtaigniers au salon de 1841, alors que l'État était sur le point de l'acheter, affecte profondément l'artiste. Cette œuvre est pourtant décisive dans sa carrière. Elle souligne tout d'abord la fascination du peintre pour les effets du clair-obscur dans la nature. Commencé durant son séjour au château de Souliers près de Bressuire dans le Poitou en 1837, elle est terminée, si l'on peut dire, en 1840. Théodore Rousseau a en effet pour habitude de travailler d'abord en plein air avant de poursuivre la réalisation, qui peut prendre plusieurs années, dans son atelier, car il peine à faire coïncider son désir de peindre le réel avec son sentiment intime de la nature. L'allée des châtaigniers montre également l'intérêt de l'artiste, ce qui fait sa modernité, pour la création d'œuvres hybrides où se mêlent différentes techniques, ici fusain, encre et peinture, avec par endroits de délicats glacis et ailleurs une application plus grossière de la peinture. Malgré le rejet de l'allée des châtaigniers, ou peut-être pour cette raison, elle est l'œuvre la plus célèbre de l'artiste durant les années 1840. Théodore Rousseau devient une sorte de martyr, il est le grand refusé. De nombreux critiques regrettent son absence et dénoncent, je cite, « l'inqualifiable partialité du jury ». Paradoxalement, alors qu'il est difficile à cette époque de se faire un nom sans exposer au salon, car le salon était le lieu incontournable pour un artiste de se faire connaître, il commence à intéresser les collectionneurs. C'est ainsi qu'un jeune industriel, Paul Perrier, achète en 1842 l'allée des châtaigniers et dès lors soutient son travail. Mais l'humiliation causée par son refus au salon de 1841 plonge Théodore Rousseau dans une impasse. Il prend la décision de ne plus rien envoyer au salon et s'y attellera pendant 13 ans. Il quitte Paris pour se ressourcer et trouver un moyen de se renouveler artistiquement. C'est ainsi qu'il part plusieurs mois en 1842 pour le Berry, sur les conseils de son ami le peintre paysagiste Jules Dupré. À l'opposé de l'Auvergne et de ses montagnes, le Berry est un plat pays constitué de marais. Sous le charme de cette beauté austère, Théodore Rousseau conçoit une nouvelle approche de la nature par des études de forme et de tonalité plus descriptives sans être complètement nettes, tel ce dessin à la pierre noire et réau de blanc intitulé « Bord de rivière dans le Berry ». Dans le Berry, il se rend aussi à Nohant, où il est invité par son ami Georges Sand, dont il fait sa connaissance en 1837, en même temps que Jeanne Delacroix, lorsqu'ils viennent visiter son atelier avec un ami commun, le journaliste et critique d'art Théophile Thoré, l'un de ses plus fervents défenseurs. C'est donc chez Georges Sand, qui tient salon avec Delacroix et Frédéric Chopin, que Théodore Rousseau tombe amoureux d'Augustine Brault, la nièce de son hôte, qui la considère comme sa fille adoptive. Georges Sand est favorable à leur liaison, mais en 1847, alors qu'il retourne à Nohant, il est contraint de rompre ses fiançailles avec Augustine suite à un malentendu familial. Terriblement malheureux, il se réfugie à Barbizon et y demeurera jusqu'à sa mort. Barbizon est un petit village avec une seule rue, située dans la forêt de Fontainebleau près de Paris, fréquentée par les artistes depuis le milieu du XVIIIe siècle. Mais dans les années 1830, le lieu attire des peintres qui souhaitent être en lien direct avec la réalité de la nature, soucieux de faire du paysage le principal protagoniste. L'aménagement de la ligne de chemin de fer qui relie Paris à Melun à 10 km de Barbizon favorise le développement de ce que l'on nommera bientôt, dès les années 1860, l'école ou la colonie de Barbizon. Autour de Théodore Rousseau, un groupe de peintres se forme, parmi lesquels Jean-François Millet, Constant Troyon, Antoine-Louis Barry, Narcisse Diaz de la Peña, Charles Jacques, Antoine-Louis Barry. Cette communauté d'artistes est rassemblée dans une salle de l'exposition. Jean-François Millet est celui avec lequel Théodore Rousseau a le plus d'affinité. Un plâtre d'Henri Chaput qui a servi pour la sculpture en bronze incrustée dans un rocher de Fontainebleau encore visible aujourd'hui témoigne de l'amitié entre les deux hommes. À Barbizon, il y a aussi l'auberge Gane, réputée pour offrir gîte et couvert pour quelques sous seulement. Mais Théodore Rousseau s'installe dans une chaumière et transforme la grange en atelier, tout en conservant son atelier parisien. L'année 1847 marque un tournant dans sa carrière. Le peintre n'ambitionne plus de parcourir les terres lointaines et inconnues, du moins plus de façon effrénée. Désormais, il veut se consacrer à la forêt qui devient son sujet de prédilection. Il aime la forêt dense, celle où l'homme n'a rien à ménager. Et c'est là, devant cet atelier grandeur nature, avec ses arbres impressionnants, cette végétation mystérieuse, ses clairières nimbées de lumière et ses mares aux reflets changeants, qu'il trouve son inspiration. Dans le silence et la solitude, il peint la vie, surtout la vie végétale. Il se sent libre, d'autant plus libre que la révolution qui éclate en 1848 fait surgir la Deuxième République. La carrière du républicain Rousseau, comme le qualifie Delacroix dans son journal, prend un nouveau départ. Si Théodore Rousseau a été boudé durant de nombreuses années par une partie de la critique, celle favorable à la monarchie de Juillet, c'est que la nature était devenue sous ses pinceaux, comme ceux de ses confrères, un modèle à la fois de liberté, de fraternité et d'égalité devant servir d'exemple à la société humaine. Un art social, un art universel, où la nature est en communion avec les hommes, car je cite « l'art c'est la vie qui s'adresse à la vie », une formule que Théophile Thoré reprend au philosophe socialiste Pierre Ledoux et à laquelle Théodore Rousseau est très sensible. Le paysage réel qui porte sur l'observation de la nature devient ainsi pour la critique d'art républicaine et socialiste le genre pictural démocratique le plus élevé dans la hiérarchie. Et c'est par le caractère non fini de ses œuvres que pour la critique républicaine et notamment pour Théophile Thoré que Théodore Rousseau arrive à atteindre cet idéal de l'art pour l'homme. Après l'instauration de la Deuxième République, lorsque Charles Blanc, historien, critique d'art et graveur, est nommé directeur de l'administration des Beaux-Arts, il suggère au ministre de l'Intérieur Alexandre Ledru-Rollin de faire acte public de réparation en faveur de Théodore Rousseau et de Jules Dupré. C'est ainsi que les deux hommes se rendent en personne dans leur atelier pour leur commander un paysage. Théodore Rousseau réalise alors Sortie de forêt à Fontainebleau, soleil couchant, que l'État achète 4000 francs, ce qui équivaut pour le peintre à 2 années de vivres. Si Théodore Rousseau est peu enclin à peindre des animaux, dans ce tableau montrant un bouvier et son troupeau qui s'abreuvent près d'une chenaie, le thème du pâturage souligne de façon latente les enjeux politiques autour de la question de la défense du droit des paysans à faire paître leurs troupeaux en forêt. Après 13 années de silence, Théodore Rousseau fit son grand retour au salon de 1849, à l'âge de 37 ans. Théophile Gautier l'annonce dans le quotidien La Presse en expliquant pourquoi cette si longue absence. L'événement du salon est l'entrée de M. Théodore Rousseau, repoussé impitoyablement par le jury durant cette longue persécution que les Néron et les Dioclétiens de l'Institut ont fait subir aux confesseurs et aux martyrs de l'idée nouvelle. Rousseau s'est livré avec une audace exaspérée à toutes les violences que nécessite et qu'excuse une insurrection dans le domaine de l'art. Le renouveau de la peinture de paysage dont Théodore Rousseau est l'un des principaux représentants n'est pas sans rapport avec le développement des sciences qui favorisent une meilleure connaissance du vivant. La biologie notamment transforme la manière dont l'homme envisage son rôle au sein de la nature. C'est pourquoi dans les œuvres de Théodore Rousseau, la taille de ses rares figures est réduite face à l'immensité de la nature et que par ailleurs ses compositions sont souvent elliptiques pour inviter le spectateur à plonger au cœur du tableau pour faire corps avec le paysage, avec la nature, comme on peut le voir par exemple dans « Une avenue forêt de l'Isle-Adam » présentée à ce salon de 1849. À ce même salon où Théodore Rousseau expose trois œuvres, Terrain d'automne, d'abord refusé par le jury, est ensuite signalé dans le registre comme admis par révision, une manière de montrer que la révolution amorcée en peinture est désormais, si l'on peut dire, acceptée. Théodore Rousseau y obtient sa première médaille, sa reconnaissance est désormais officielle. La forêt de Fontainebleau devient le refuge de Théodore Rousseau. Il y passe ses journées du matin au soir à observer, à fouiller le visible. Il n'y a pas un arbre, pas un rocher, pas un site de Fontainebleau qui ne soit sujet d'étude à ses yeux. Travaillant les formes, les matières, les couleurs, la lumière à toute heure du jour et à n'importe quelle saison, il apparaît comme le précurseur des impressionnistes. La quatrième salle de l'exposition se présente comme une promenade en forêt avec Théodore Rousseau. On passe ainsi par l'intérieur de la forêt dans les sous-bois avec le vieux dormeur du Bas-Bréau, puis par les clairières, celles de la Haute Futaie, par le désert d'Apremont, le désert de Macherin, le pavé de Chailly, la chaussée du Roi ou encore la mare aux fées. Théodore Rousseau a une vision panthéiste de la nature. Dieu étant en toute chose, le divin se répand donc partout dans la nature, dans les marais, dans les sous-bois, dans les rochers, dans les vieux arbres ou les simples branches de bois morts qui peuplent ses œuvres. Ses liens avec les écosystèmes sont très forts. Avec la forêt, il vit une communion mystique, il entend les voix des arbres, tandis que la variété de leurs formes et leurs singularités lui révèlent le langage des forêts. Les arbres ont aussi une âme, il entre en conversation avec eux pour percer le secret de leur grandeur. À force de les scruter pendant des jours et des jours pour en examiner la structure organique, il parvient à faire ressortir leur individualité. Ces arbres deviennent des portraits, ainsi le chêne de la Reine Blanche, le chêne de Roche, dont il réalise à la fois l'estampe et la peinture, ou encore l'arbre penché au carrefour de l'épine. Il est vrai que Théodore Rousseau aime particulièrement le chêne, cet arbre robuste au tronc large, chargé d'histoire et qui représente le symbole de la France. Si Théodore Rousseau peint avec passion cette forêt séculaire, c'est par nostalgie et surtout dans l'espoir de la préserver. À travers ses œuvres, il cherche à susciter l'empathie du spectateur, à le faire prendre conscience de l'intérêt à sauvegarder ce patrimoine national. Il n'est pas le seul, car dès les années 1840, de nombreux artistes, critiques et écrivains s'inquiètent du sort de la forêt. Avec l'industrialisation de la France à partir des années 1830, la forêt de Fontainebleau est en effet en plein bouleversement. Elle est saccagée, de nombreux arbres sont abattus pour l'industrie, pour le bois de chauffage et remplacés par des pins. Les coupes massives d'arbres dépassent la seule forêt de Fontainebleau. Théodore Rousseau dénonce les sylviculteurs malfaisants dans une œuvre manifeste qu'il intitule « Le massacre des innocents » ou « Abattage d'arbres dans l'île de Croissy ». Le titre qui rappelle l'épisode biblique de l'assassinat de tous les enfants de moins de 2 ans sur ordre du roi Hérode souligne combien les arbres sont pour Théodore Rousseau des individus à part entière. À travers cette œuvre, il veut éveiller les consciences pour que cesse cette destruction massive. Il déplore par ailleurs les nouveaux aménagements de la forêt de Fontainebleau entrepris par Claude-François de Necourt. Il estime que ces aménagements dénaturent le lieu avec ses sentiers de promenade, ses chemins fléchés, ses circuits à vocation panoramique qui favorisent l'afflux massif de touristes dans cette forêt autrefois solitaire. Une carte est présentée à l'exposition, montrant alors tous les lieux de promenade à découvrir. C'est ainsi qu'en 1852, Théodore Rousseau, avec son ami le critique d'art Alfred Sancier, rédige une pétition au comte de Morny, ministre de l'Intérieur de Napoléon III, afin que l'administration de la forêt protège une partie de la forêt de Fontainebleau de toute coupe intempestive, de toute intervention humaine au nom de l'art. Permettez-moi de venir au nom de l'art vous demander justice contre des faits qui depuis 30 ans attristent profondément les artistes. Je veux parler des dévastations qui se commettent par l'administration elle-même dans la forêt de Fontainebleau. Cette forêt, la plus antique de France, est aussi la plus remarquable par ses sites et son caractère tout particulier de grandeur et de beauté. Je demande au moins que l'art ait sa place dans cette grande exploitation, que les lieux qui sont pour les artistes des sujets d'études, des modèles reconnus de composition et de tableaux, soient mis hors d'atteinte de l'administration forestière qui les gère mal et de l'homme absurde qui les exploite. La plainte de Théodore Rousseau est entendue par l'administration qui, l'année suivante, en 1853, décide de la création de la toute première réserve naturelle au monde, soit 10 ans avant les parcs américains de Yellowstone. Cette réserve, qui porte le nom de série artistique, est officialisée par un décret en 1861. Le goût croissant du public pour l'authentique profite à Théodore Rousseau. Si sa carrière prend un nouvel essor à partir de 1848, les années 1850 en marquent l'apogée. Après avoir été nommé chevalier de la Légion d'honneur au salon de 1852, il reçoit la médaille d'or à l'exposition universelle de 1855, où il triomphe avec 13 toiles, parmi lesquelles Sortie de forêt à Fontainebleau, soleil couchant, et la forêt de Fontainebleau matin, qui présentant le même lieu à deux moments différents de la journée, annonce les séries de Claude Monet. Par la suite, il devient président du jury de l'exposition universelle de 1867. Mais à peine un mois après sa fermeture, le 22 décembre, il meurt d'un arrêt cardiaque à l'âge de 55 ans. Théodore Rousseau, La Voix de la Forêt, une exposition à voir absolument au Petit Palais jusqu'au 7 juillet. C'était Expod, le podcast des expositions.